À 7h19, heure de Paris, votre invité Frédéric Rivière, vous recevez ce matin la députée LFI NUPES de Paris, Danielle Obono.
Bonjour Danielle Obono.
Bonjour.
La France manque-t-elle à son devoir à Mayotte où les très graves violences qui s'y produisent depuis plusieurs jours sont qualifiées de véritables guerres civiles par un certain nombre d'élus locaux?
Ben c'est clair que c'est une situation qui n'est pas nouvelle, récurrente, à intervalles réguliers.
Mais qui prend là des proportions
de violence. Et c'est vrai que ça prend des proportions plus importantes. C'est quand même, rappelons-le, l'un des territoires les plus pauvres, les plus défavorisés de la République, où vous avez une proportion importante de la population qui est très jeune et qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas accès à tout un ensemble de droits sociaux qui rend d'autant plus l'éruption de ce genre de violence, notamment dans la jeunesse, encore plus virale, encore plus forte. Et il faut permettre que l'intégrité physique et la sécurité se reviennent sur le territoire. Mais si on ne va pas à la source du problème, et notamment la situation sociale et économique d'une grande partie de cette jeunesse et de cette population, je crois qu'on n'arrivera pas à mettre un terme à cette situation et à apaiser véritablement le territoire.
Établissez-vous un lien entre l'immigration et les violences à Mayotte?
Que ce soit à Mayotte ou ailleurs, non.
Là aussi, il y a une question de proportion, peut-être. Je rappelle juste qu'on estime que 48% de la population est étrangère à Mayotte.
Oui, alors,
la plupart venant des Comores.
Oui, la situation à Mayotte est particulière, puisque il s'agit d'un archipel comorien au milieu duquel se trouve Mayotte, qui est territoire français. Et donc, il y a une histoire très longue, très ancienne, et une bonne partie de cette population a des liens, y compris familiaux, avec la population étrangère immigrée, avec celle de Mayotte. Donc, on a une vraie situation, de vraies difficultés à ce niveau-là. Mais encore une fois, je crois qu'on ne comprend pas la situation si on ne se rend pas compte du décalage qu'il y a, y compris vis-à-vis des autres territoires d'outre-mer qui sont déjà particulièrement défavorisés à Mayotte au niveau social. Quand vous avez une jeunesse aussi importante et par rapport à laquelle, y compris même s'il s'agit de personnes qui sont non accompagnées, de jeunes non accompagnés, etc., qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas d'encadrement scolaire, d'accompagnement, ça c'est mathématique, où que ce soit, dans n'importe quel pays, les situations de tant de personnes aussi jeunes, mal accompagnées, pas du tout éduquées, vont susciter des troubles à un moment donné. Et donc c'est plus l'abandon, à mon sens, de populations fragiles et vulnérables et déjà précaires, qui vont faire que y compris une partie va basculer dans la délinquance, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Mais faire un lien avec l'immigration, comme c'est fait d'ailleurs, il n'y a pas besoin que ce soit à Mayotte, pour que ce débat ait lieu en France, comme M. Darmanin, comme le président Macron, de manière assez irresponsable à mon sens, court après l'extrême droite pour justifier leur politique répressive. Je ne le fais pas. Je pense qu'il faut aller à la source du problème, qui est la situation sociale et économique.
Ce que pointe un certain nombre d'élus de Mayotte, c'est que l'immigration a fait augmenter la population dans des proportions tout à fait considérables. Elle a doublé en 20 ans. Et qu'une population qui double en 20 ans, évidemment, ça crée des problèmes d'accès à un certain nombre d'infrastructures et de services publics.
Oui, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est donc de pouvoir faire en sorte que les infrastructures soient présente et que elle puisse accueillir la population. Donc, on a bien un problème.
Y compris l'immigration.
On a bien un problème, mais je vous parlais de parmi cette population, il y a une population très jeune qui arrive et pour lesquelles il n'y a pas d'infrastructure. Aux dernières nouvelles, même à Mayotte, je sais qu'on a beaucoup régressé sur le droit, ne serait-ce que le droit français, mais même à Mayotte, la convention des droits des enfants, la protection des mineurs s'impose à nous. Et donc, vis-à-vis de cette jeunesse, justement pour éviter qu'elle dérive, il faudrait des infrastructures pour les accompagner, sociales, éducatives, ce qui n'est pas. Donc, mettons les moyens pour accompagner la population, mettons les moyens pour faire en sorte que cette jeunesse ne dérive pas, et je pense que ça participera à apaiser la situation. l'envoi de forces de sécurité est peut-être nécessaire, mais ce sera certainement pas suffisant pour que la situation s'apaise et que surtout elle s'améliore pour la majorité de la population.
Caroline Fiat, députée de la France Insoumise, qui a défendu jeudi un texte permettant la réintégration des personnels de santé non vaccinés, a dénoncé l'attitude inadmissible du gouvernement, qui a selon elle tout fait pour empêcher l'adoption de la proposition de loi. La France Insoumise peut-elle vraiment dénoncer l'obstruction parlementaire qu'elle a tant pratiquée ?
Tant pratiquer, c'est nous faire trop d'honneur. En vérité, nous assumons d'avoir, lors du débat sur les retraites, voulu ralentir l'adoption de cette loi parce que, majoritairement dans la population, les mobilisations sociales le disaient, les sondages d'opinion le disaient, il y avait une opposition à cette réforme antisociale. Et notre travail parlementaire, en tant que représentant du peuple et défendant une position, justement, de s'opposer au recul de l'âge de la retraite, ça a été, effectivement, de faire en sorte que nous puissions... avoir ce débat-là que le gouvernement ne voulait pas. Et donc nous avons assumé de faire cette politique. Mais il y a une différence majeure entre s'opposer à un texte par les moyens parlementaires qui existent, nous avons fait une sorte de grève de zèle, à un texte présenté par le gouvernement. Et ce qu'a fait le gouvernement, c'est saboter la niche parlementaire d'un groupe d'opposition. Il faut rappeler que les groupes d'opposition n'ont qu'une seule journée. Une seule journée où nous pouvons débattre de nos textes. Déjà dans la plupart du temps à l'Assemblée,
de présenter
voilà
textes
des textes et on a de 9h à minuit pour discuter de l'ensemble de nos textes. Nous avions déjà fait un choix assez difficile de ne pas aller au bout de tous les textes que nous souhaitions débattre, puisque une partie l'ensemble avait été présenté en commission, mais étant donné justement ce que nous savions de ce qui était prévu par certains d'autres groupes, nous avons retiré des textes pour pouvoir aller au bout de textes importants, la constitutionnalisation de l'IVG,
qui a été adoptée.
La corrida que nous n'avons pas pu débattre jusqu'au bout, et la réintégration des personnels soignants. Je rappelle un point quand même important aussi, c'est que à l'Assemblée, c'est peu su, mais en vérité, les trois quarts des textes, ce ne sont pas les députés qui les proposent, c'est le gouvernement. Donc on avait déjà un gouvernement qui écrase le Parlement par sa maîtrise. Et donc là, oui, c'est absolument inadmissible que le gouvernement participe directement, parce que ce qui s'est passé sur la réintégration des soignants, nous avions une majorité à l'Assemblée. Il y a eu un vote pour supprimer l'article principal du texte et il a été rejeté. Donc nous avions la majorité, il y avait le temps de pouvoir le discuter et donc c'est le gouvernement qui, par un subterfuge, s'est mis à introduire des amendements pour qu'il y ait obstruction. Et c'est vrai que ça, c'est assez inédit, tellement que ça a suscité de la part de tous les groupes d'opposition des réactions. Et donc, oui, là on change... carrément, j'allais dire, les règles du jeu qui sont déjà assez défavorables aux parlementaires. Et surtout, sur ce point-là de la réintégration des soignants, je rappelle que c'est une situation extrêmement injuste socialement, qui ne se justifie pas sanitairement. D'autres pays, en fait, sont revenus là-dessus. Et on parlait de l'outre-mer tout à l'heure. C'est une situation qui est une catastrophe humaine et sociale, notamment dans les territoires d'outre-mer où la situation de la santé, des infrastructures hospitalières était déjà catastrophique et où on met des gens à la rue qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est aussi une catastrophe pour ces territoires.
Il nous reste une minute, Daniel Obono. L'affaire Quatennens, très rapidement. Vous dites, nous prenons les accusations de Céline Quatennens au sérieux. Est-ce que vous prenez aussi au sérieux les démentis d'Adrien Quatennens ?
Écoutez, nous ne sommes pas juges, il y a une procédure qui est en cours, donc nous n'avons pas connaissance de l'intimité de ce qui s'est passé.
Et mais tout ce que nous pouvons... Vous dites, nous prenons au sérieux les accusations.
Oui, mais parce que ce sont des accusations graves. Et quand on est féministe comme nous le sommes, nous ne pouvons que entendre ce qu'a dit Céline Quatennens, entendre ces accusations que effectivement Adrien Quatennens récuse. Et donc nous prendrons notre décision politique qui n'est pas la décision judiciaire une fois que celle-ci aura été donnée, en tenant compte de nos principes féministes mais aussi de nos principes humanistes vis-à-vis de la justice, vis-à-vis du fait que effectivement les personnes peuvent être sanctionnées mais peuvent aussi ensuite être réintégrées. Donc il y a tout un processus qui articule de notre point de vue à la fois la lutte contre les violences et l'esprit de justice et d'humanisme qui nous anime.
Merci Daniel Obono, bonne journée.
Merci, au revoir.